L'actualité, Lénaïque Monnier, Bernard Poirette.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de votre journal, Lénaïque, la passagère du chauffard de Lorient. Eh bien, cette jeune femme a passé la nuit en prison.
Mise en examen hier soir, alors que le chauffard, lui, 6 jours après la mort du petit garçon, est toujours en cavale. 70 millions d'euros débloqués pour venir en aide au personnel des urgences. Un premier pas après 3 mois de grève. Mais nous verrons si c'est suffisant ou pas. Et puis, ce sont les meilleures ouvrières de France. Comment mieux connaître et protéger les abeilles? Jusqu'à ce soir, ce sont les Happy Days.
Europe 1. Déjà 6 jours de cavale pour le chauffard qui a tué un enfant et en a blessé un autre très grièvement dimanche à Lorient.
Il reste introuvable. En revanche, la passagère qui a été interpellée mercredi, elle a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger et placée hier soir en détention provisoire. Les précisions de notre envoyée spéciale à Lorient, Hélène Terzian.
C'est une jeune fille visiblement fatiguée que l'on a pu voir quelques minutes dans le bureau de la juge de la liberté et de la détention. Les cheveux attachés en chignon, en jean, basket et pull beige, les mains croisées, c'est avec une petite voix qu'elle a répondu à la juge d'instruction avant qu'elle décide de l'écrouer. Après 3 jours de cavale et plus de 40 heures de garde à vue, la passagère de 21 ans a passé sa première nuit dans un quartier pour femmes d'une prison de la région. Mise en examen pour non-assistance à personne en danger, ce délit pourrait lui coûter jusqu'à 7 ans de prison. Effondré, le papa de la jeune fille confiait hier soir sa désolation. Même sentiment d'épuisement, mais aussi d'inquiétude chez les proches du chauffard, toujours en fuite. Il doit se rendre, martèle-t-il. Malgré la centaine d'appels par jour depuis la diffusion de son signalement, le jeune homme de 20 ans reste introuvable. Une vingtaine de policiers est toujours à ses trousses. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.
Depuis Lorient, c'était Hélène Terzian pour Europe 1.
Une messe à Notre-Dame ce soir à 18h exactement et 2 mois pile après l'incendie qui a ravagé la cathédrale.
L'office se tiendra dans la chapelle à 18h, un lieu sécurisé, messe en tout petit comité puisque seule une trentaine de personnes, des prêtres pour moitié, ont été conviés. Le diocèse de Paris a obtenu une autorisation spéciale pour célébrer cette première messe depuis l'incendie du 15 avril. 2 mois au cours desquels, depuis, les ouvriers ont travaillé sans cesse sur le chantier. Reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
Tout autour de la cathédrale, il y a désormais cette palissade métallique. 3 mètres de hauteur surmontée de fils barbelés. Elle sépare le chantier des milliers de touristes. Appareil photo à la main, Nora et Solange sont venues du sud de la France constater l'avancée des travaux.
Maintenant, il y a des pierres, du bois, des étés, de la souffrance, on va dire.
Un grand blessé. Il faut soigner maintenant, voilà. On sait qu'elle va être en travaux un certain temps. Hein. Mais on est ravis de voir quand même qu'il y a des choses qui ont été faites, déjà.
Une grande bâche remplace la toiture. Les vitraux latéraux ont été retirés pour être restaurés. À l'intérieur de la cathédrale, les pignons nord et sud ont été renforcés et ce sera bientôt le cas des arcs-boutants qui tiennent une partie de l'édifice. Avant d'envisager la reconstruction, la phase de sécurisation prend du temps. Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame.
Ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, c'est donc un grand plancher au-dessus de la voûte, un grand plancher au-dessous pour vérifier chaque pierre de la voûte. Et c'est un travail qui va nous mener certainement jusqu'à au moins octobre prochain. Vous voyez, encore 4 mois de sécurisation du chantier avant de démarrer véritablement les travaux.
Il faudra encore retirer l'immense échafaudage qui entourait la flèche lorsqu'elle s'est effondrée. 50 000 tubes de métal qui n'ont pas brûlé dans l'incendie.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. La reconstruction ne débutera que début 2020, tandis que la plupart des fonds promis sont toujours attendus. 9% seulement à ce jour ont été versés.
Et justement, on fera le point sur les finances de la reconstruction de Notre-Dame tout à l'heure à 8h15 avec le ministre de la Culture, Franck Riester, qui sera l'invité de la rédaction ce matin. Après 3 mois de grève, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, fait un geste pour calmer la colère des urgentistes.
En mettant 70 millions d'euros sur la table qui serviront notamment à financer des primes de risque de 100 euros net par mois. Tous les personnels des services d'urgence hors médecins toucheront cette prime dès le mois prochain. Ça concerne 30 000 personnes. C'est un début, mais est-ce suffisant? Écoutez Juliette, infirmière à l'hôpital Robert Debré et membre du collectif Interurgence.
On va dans la direction des 300 euros que l'on demande. Après, vous comprenez vous-même que 100 euros, 300 euros, ce n'est pas la même chose. Nos directions d'hôpitaux disent qu'on a du mal à recruter. Donc ça permettrait une attractivité pour les nouvelles qui viennent. Mais nos revendications sont vraiment globales. On demande plus de recrutement pour pouvoir gérer le flux des patients qui n'a de cesse que d'augmenter. Des centaines et des centaines de lits dans les services sont fermés, donc nos patients restent sur des brancards pendant des heures et des heures Le temps qu'un autre patient sorte le lendemain.
La prochaine échéance, c'est cet été. Le ministère a promis des embauches.
Alors là, j'espère que les contrats ne seront pas précaires, que ce seront des CDI, du coup, parce que la santé publique aime faire des CDD renouvelables. En faisant cette politique d'économie, on perd en acquis de compétences, puisqu'on met du temps à former les gens. Et les gens, au bout de 2 ans, ils s'en vont. Ça, on veut plus. Ça fait partie de nos revendications également.
Juliette, infirmière à Paris, au micro Europe 1 de Mathieu Bock.
Et par ailleurs, notez que dans l'émission de Patrick Cohen, à partir de 9h05, tout à l'heure sur Europe 1, Philippe Juvin, le chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, sera l'un des invités. Donc on parlera encore des urgences avec Patrick tout à l'heure. Restez avec nous. On va voir dans un instant que le train, désormais, est trop cher pour emmener les enfants en colonie de vacances. Et ça fait protester les organisateurs de colonies.
Europe 1, il est 6h06.
6h-9h, Bernard Poiret sur Europe 1.
À suite de l'actu avec Lénaïque Monnier et Bernard Poiret.
Lénaïque, les vacances scolaires débutent très bientôt. Et beaucoup d'enfants, normalement, vont partir en colo.
Sauf que voilà, les transporter en train est de plus en plus cher. Les organisateurs de colonies de vacances, fâchés, ont donc adressé à la SNCF et au gouvernement un courrier pour les alerter sur la politique tarifaire. Louise Fénelon est représentante de l'UNAT, c'est l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air.
Aujourd'hui, la SNCF nous met des bâtons dans les roues. Par exemple, si vous, en tant qu'individuel, vous regardez sur le site de la SNCF pour aller à telle destination, j'ai 10 trains différents. Mais si vous voulez demander la même destination pour un groupe, il n'y a que quelques trains qui sont proposés. Les autres sont fermés complètement au groupe. De même, certaines gares ne sont plus accessibles au groupe. Parce qu'effectivement, quand un groupe descend à une gare, le temps d'arrêt d'un train va être un petit peu plus long. 50 enfants qui descendent, 50 bagages à faire descendre, ça va rallonger un petit peu. Donc, faire voyager des enfants, ce n'est pas anodin. On a besoin de certitude que tous les enfants soient placés dans le même wagon, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir un groupe de 50 et on va avoir 10 enfants en voiture 4, puis les derniers dans la voiture 7. C'est un cri d'alerte en disant pourquoi finalement la SNCF s'acharne sur les groupes alors que finalement nos jeunes vacanciers sont les futurs clients de la SNCF.
Louise Fénelon avec Jean-Sébastien Soldaini. Les tarifs réglementés du gaz devraient reculer de 6,7% au 1er juillet, en raison d'une baisse des cours mondiaux du gaz depuis fin 2018. C'est une baisse qui va concerner plus de 4 millions de foyers.
Je vous rappelle que l'électricité a pris plus 6% le 1er juin et le gaz baisse donc de presque 7% le 1er juillet. Qu'on prenne qui pourra. La communauté internationale appelle au calme après le regain de tension apparu tout récemment entre les États-Unis et l'Iran.
Car les États-Unis continuent d'accuser l'Iran après les attaques de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Depuis, c'est l'escalade verbale. La Chine appelle cette nuit au dialogue, tandis que l'Irak proche à la fois de Téhéran et de Washington, apprenez l'apaisement.
Et puis les Happy Days. Attention, Happy écrit A-P-I, Days, les jours. Donc, faites leurs 10 ans. On parle bien sûr d'abeilles.
Oui, Happy pour apiculture, évidemment. Jusqu'à ce soir, les producteurs de miel vous apprennent à mieux connaître les abeilles, à mieux comprendre aussi à quel point elles sont importantes pour notre écosystème. Car depuis 15 ans, chaque année, un tiers des colonies disparaît. En cause, l'agriculture intensive, les pesticides aussi, lors d'Autriche.
30% des abeilles continuent de mourir chaque année en France à cause de l'agriculture intensive, des aléas climatiques et de l'utilisation d'insecticides. Deux néonicotinoïdes classés toxiques ont été interdits il y a 6 mois, mais cette décision n'a pour l'instant aucun effet positif, explique Henri Clément, apiculteur et président de l'Union de l'apiculture française.
Elle ne sera efficace que dans 3-4 ans parce que ces produits ont une durée de vie dans le sol qui est très longue, donc ils contaminent les plantes pendant très longtemps. On a eu encore des intoxications au printemps, il y en a encore un peu partout. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et cette année, par exemple, les conditions sont catastrophiques. Nous, ce matin, on avait 9 degrés. Là, il fait 9 degrés. Vous imaginez bien que les abeilles ne peuvent pas voler, ne peuvent pas récupérer le nectar pour faire du miel.
Face au déclin des abeilles, une entreprise américaine a mis au point un drone pollinisateur dans les exploitations agricoles. L'engin est programmé pour vaporiser une quantité importante de pollen dès que la fleur s'ouvre. Aucune solution artificielle n'est pour le moment testée en France.
Lors d'Autriche pour Europe 1.
Ah, le drone pollinisateur, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique des nouveautés de Mathieu Mbida.
Et à 6h10, Blast au sport avec Lénaïque Monnier.
C'est soir de finale en top 14 de rugby. Très belle affiche au Stade de France tout à l'heure. Toulouse contre Clermont.
Laquelle de ces deux équipes va soulever le bouclier de Brennus? C'est une affiche entre deux équipes qui ont dominé la saison. Clermont, sacré en 2017, revient à son meilleur niveau après une saison noire l'an passé. Écoutez le demi d'ouverture des jaunards, Camille Lopez.
Je pense qu'inconsciemment, l'année après le titre en 2017, on n'a pas entamé la saison de la meilleure des manières. Et on sait que dans ce championnat, c'est compliqué quand tu prends du retard au début, mais à la fin c'est trop tard. Donc cette année, on avait tâché de mieux commencer, et ce qu'on a commencé par faire, et on a continué tout au long de la saison. Donc maintenant, voilà, on est au bout, et il reste encore un match.
Toulouse face à Clermont, c'est en direct et en intégralité sur Europe 1 à 21h ce soir avec Simon Rubin et Eric Blanc en commentaire.
Un choc d'entrée de jeu pour la reprise en Ligue 1, ce sera le 10 août prochain.
Le calendrier vient d'être dévoilé, la saison va débuter par Monaco-Lyon tandis que le PSG jouera contre Nîmes à la maison. La Ligue 1 qui revient donc mais qui change de nom, elle s'appellera Uber Eats cette saison, pas du goût de tout le monde. Le géant américain, c'est la crise des taxis, pas ou peu d'impôts payés en France et plus globalement la précarité des livreurs auto-entrepreneurs. Mais à la Ligue, on ne craint pas cette image. Écoutez Didier Quillot, directeur général de la Ligue de foot.
Je ne crains pas du tout un risque d'image pour la Ligue 1. Au contraire, Uber Eats, c'est une marque qui parle aux jeunes. C'est une marque qui est entrée dans le quotidien des gens, dans le monde entier. Et c'est une marque qui est entrée dans le quotidien des fans de football. Donc ça, l'ubérisation de la société, c'est un terme intellectuel de Saint-Germain-des-Prés. Les fans de football, ils veulent pouvoir s'installer devant leur télévision avec leurs copains ou leurs parents et puis manger. Nous, on travaille chaque jour pour rattraper notre retard par rapport à d'autres ligues européennes comme la Liga espagnole, la Bundesliga allemande. Je pense que maintenant, en termes d'attractivité, de revenus, de notoriété, on est en train de dépasser la Serie A italienne. Il faut essayer de faire aussi bien que nos collègues allemands ou nos collègues espagnols.
Didier Quillot avec Cyril de la Morinerie.
Et puis business encore, le tournoi de Roland-Garros a lancé un appel d'offres pour ses futurs droits de retransmission télévisée.
Pour la période 2021-2023, avec des lots variés dont l'un comprend l'intégralité du tournoi. Jean-François Villotte, c'est le directeur général de Roland-Garros. Pour lui, c'est un moyen de mettre en valeur tous les gros investissements réalisés cette année, et notamment avec le toit du cours central.
C'est l'année où toutes les conséquences de cette mue vont pouvoir être visibles et utilisées par les diffuseurs, le toit, les matchs du Simone Mathieu, les sessions de soirée. Et donc on attend une valorisation évidemment de ces droits sur notre marché domestique à la hauteur de ce qu'est aujourd'hui Roland-Garros.
Et l'attribution sera annoncée le 19 juillet prochain.
Et donc, si je comprends bien les naïcs, ce ne sera plus forcément dans l'avenir le service public France
Absolument.
2, France 3.
Il y a les droits jusqu'en 2020
pour l'instant. Voilà, exactement, qui retransmet Roland-Garros. Ça peut éventuellement passer chez d'autres diffuseurs. Merci beaucoup les naïcs. Votre prochain journal en ce qui vous concerne, c'est à 7h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.